On n'est pas du monde, version 15 minutes, avec Antoine Malenfant et son invité.
Aujourd'hui à l'émission, on découvre le phénomène climatique des îlots de chaleur avec notre chroniqueuse d'écologie intégrale, Ariane Beauferré. Ariane Beauferré, tu nous parles aujourd'hui pas des banlieues spécifiquement, mais d'un phénomène qu'on retrouve aussi en ville beaucoup, qu'on appelle les îlots de chaleur. Qu'est-ce qu'un îlot de chaleur?
Un îlot de chaleur, ben oui, ça se retrouve surtout en ville parce que c'est une zone urbaine dont la température ambiante, la température de l'air, va être significativement plus élevée que d'autres zones autour. Donc, par exemple, on peut comparer la température dans le centre-ville et en banlieue et voir que une même journée avec les mêmes conditions, ben on a des températures complètement différentes. Il peut y avoir une différence même jusqu'à 12 degrés Celsius. Donc, c'est assez élevé quand même.
Tant que ça. Et qu'est-ce qui cause un îlot de chaleur?
Ben alors, premièrement, c'est des surfaces qui vont être imperméables, sombres, absorber la chaleur. Donc, tout ce qui est en ville, en fait, là où il y a du bitume, de l'asphalte, du béton, les rayons du soleil vont dessus, c'est absorbé par ces matériaux. Et ils vont retransmettre cette chaleur en permanence durant la journée, mais surtout la nuit aussi. Parce que bah, la nuit, bah, y a plus les rayons, et donc les matériaux font juste dégager la chaleur qu'ils ont emmagasinée. Mmh. Y a moins de végétation aussi qui va rafraîchir l'air. Il va y avoir en plus des activités qui vont dégager de la chaleur, comme des usines, de la congestion routière avec des automobiles qui tournent sans arrêt, la climatisation qui va rafraîchir dans les autos et à l'intérieur des bâtiments, mais qui rejette de la chaleur dans les rues. Et en plus de ça, c'est un phénomène qui est accentué par les changements climatiques. Parce que ben, la température monte, mais quand par exemple on va avoir une canicule ou un pic de chaleur durant l'été, ben, en ville, ça va être encore plus drastique.
Bon, alors pour les personnes comme moi qui ont à peu près juste la peau et les os, qui ont toujours froid, bon, moi quand je me retire dans les hauteurs de Beauport, dans ma banlieue confortable, ça me prend toujours une laine, mais quand je reviens en ville avec 12 degrés de plus dans les îlots de chaleur, je suis plutôt bien. Alors, est-ce qu'on peut dire que c'est un problème? Est-ce que c'est problématique ou c'est très confortable pour les gens comme moi?
C'est sûr que si on pense à durant l'hiver, on pourrait se dire « Oh, c'est bien, il y a plein d'avantages, ça va réchauffer un peu les villes. » Mais l'effet n'est pas si fort que ça l'hiver non plus. Mais en fait, non, c'est assez problématique parce qu'il y a beaucoup de conséquences sur la santé notamment. Donc, les îlots de chaleur vont accentuer ce qu'on appelle les vagues de chaleur accablantes, des espèces de grosses canicules qui peuvent durer pas très longtemps, mais auxquelles les jeunes enfants, les personnes âgées ou les personnes qui ont des problèmes respiratoires vont être très, très vulnérables. Mm-hmm. C'est des pics de chaleur. Et donc là, on est dans un îlot qui est déjà à la base chaud. Donc, l'effet va être aggravé. Cette augmentation des températures, en plus, dans les îlots de chaleur, elle va aggraver la pollution atmosphérique. Ça va faire plus ce qu'on appelle du smog. Du smog, c'est un mélange toxique de gaz et de particules. Parce que quand il fait plus chaud, il y a plus d'ozone et les particules fines sont comme plus retenues aussi dans l'atmosphère, au-delà de 30 degrés Celsius.
On voit parfois une espèce de nuage ou de brouillard sur la ville quand il fait très chaud. C'est ça le smog.
Et c'est pas juste à cause des automobiles. C'est vraiment juste la chaleur, la présence d'asphalte et tout qui fait qu'il y a une espèce de gros brouillard, là, comme tu le dis. Mais ce n'est pas un brouillard de vapeur d'eau, là, c'est un brouillard de particules. Et donc ça, ben ça cause des gros problèmes respiratoires. C'est aussi problématique parce que ça va accélérer une certaine morbidité chez les personnes âgées. Ça peut causer des décès. À Montréal, on estime qu'il y en a, 1540 décès prématurés par année à cause de la pollution atmosphérique.
C'est pas rien quand même.
Non, c'est pas rien. Puis en plus de ça, ben, ces fortes chaleurs à l'intérieur des maisons, on n'est pas protégé non plus. De toute façon, oui, on peut mettre de la climatisation, mais des fois, si on n'en a pas, ça peut rendre certaines substances, de la colle qui va être dans les matériaux, dans le bois, c'est qui vont être dégagées par la chaleur et sous forme de gaz, là, de toxique.
OK. Et il y a des conséquences aussi sur l'économie, je pense.
Oui, ben, il faut y penser. Quand il fait chaud, ben, on travaille moins bien déjà. Donc même si on se rend au boulot, quand on se rend au boulot...
On est moins efficace. Hein?
On est moins efficace. Mais en plus de ça, ben, il y a plus de personnes qui se rendent à l'urgence par rapport aux personnes qui ne vivent pas dans des îlots de chaleur durant les périodes de canicule. Il y a plus de consommation de médicaments, de pompes respiratoires. Il y a plus de climatisation parce que les gens ont vraiment chaud. Donc ça, encore plus, ça augmente le phénomène d'îlots de chaleur parce que, comme je le disais, ben, on rajoute de la chaleur dans l'atmosphère. Et en plus de ça, les gens, il y a une augmentation de la demande en eau potable aussi, en plus.
Et sur la qualité de vie en général, qu'est-ce que ça occasionne?
Ben, on se sent pas très bien. Hein?
Évidemment.
Il fait, on n'est pas confortable, on n'est pas efficace dans nos activités quotidiennes. Puis on peut rester même confiné alors qu'il fait très très beau dehors à cause du smog, parce que quand on a des enfants, on n'a pas envie qu'ils respirent ces vapeurs-là, toxiques.
Alors, moi, pauvre citoyen que je suis, même si je suis frileux, comment on peut combattre les îlots de chaleur?
C'est ça, je me disais, hiver 1, été 0, là.
Il y a plusieurs façons. Je pourrais en parler de 3. Déjà, c'est de mettre du verre partout, en fait. Bah, pas du verre, peindre les bâtiments en verre, mais faire du verdissement. Parce que quand on augmente, par exemple, quand on met plus d'arbres, quand on augmente les surfaces qui vont être couvertes par des buissons, la pelouse un peu moins, là par contre, ça va procurer de la fraîcheur, ça va créer des îlots de fraîcheur, ça va faire de l'ombre, ça va émettre de la vapeur d'eau par évapotranspiration. L'évapotranspiration, c'est les plantes qui vont dégager de l'eau sous forme de liquide à état gazeux, transpirer de l'eau en fait. Si on met des arbres, par exemple, ça peut faire une grosse différence. Il peut y avoir une différence de 2 à 6 degrés Celsius si on a un parc proche de chez soi ou pas. C'est quand même gros. Une rangée d'arbres dans une rue, ça peut baisser la température d'un degré aussi, en plus de procurer de l'ombre. Et en plus de ça, les arbres et la végétation, mais surtout particulièrement les arbres, ils améliorent la qualité de l'air, en fait. Ils vont filtrer tout ce smog, justement, qui est problématique. C'est assez impressionnant. Si vous prenez un arbre mature dans une rue, déjà, il perd à peu près 450 litres d'eau par jour par évapotranspiration.
Tout ça?
Oui!
Ça sue, un arbre!
Oui, ça équivaut à 5 climatiseurs, en fait, qui vont fonctionner comme non. 20 heures par jour. Donc, vous imaginez mettre des climatiseurs partout, là, mais il n'y a pas besoin, il y a juste à planter des arbres.
C'est fascinant ce que tu nous apprends là, Ariane.
Puis en plus de ça, bah, il va filtrer énormément de particules tout au long de sa vie. Sur 80 ans de vie, on pense que c'est à peu près 120 kilos de particules qu'il filtre.
Il y a une mode qui est un peu cool là, en urbanisme, c'est les fameux toits verts qui sont des espèces d'îlots de fraîcheur aussi, on pourrait
dire. Oui, tout à fait. C'est vraiment... les toits verts ont un rôle assez particulier parce que... ils vont vraiment baisser la température. Si vous prenez un toit qui est noir, asphalte, les bardeaux d'asphalte que tout le monde a, ça peut monter jusqu'à 80-90 degrés Celsius. Si vous avez un toit blanc, ça descend déjà beaucoup parce que la lumière est réfléchie. Et donc, on descend à 40-42 degrés Celsius.
C'est encore chaud.
C'est encore chaud, mais c'est quand même moins chaud. Pour l'étage en dessous, ça fait faire des grosses économies de climatisation. Si vous avez un toit vert, ça ne montera pas au-dessus de 30 degrés Celsius, là. C'est votre toit.
James.
Qu'est-ce qu'il y en est du bois?
Du bois. Pardon, peux-tu préciser? Ben,
si on construit des maisons en bois?
Oui, ben, le bois... Bon, les matériaux, ils ont une capacité d'absorber la chaleur et de réfléchir la lumière. Donc, si tu peins ton bois en noir, c'est sûr qu'il va absorber un petit peu plus, mais il absorbera quand même moins que du béton ou de l'asphalte. Donc, oui, ce sera toujours mieux. Mais il y a aussi d'autres matériaux, par exemple, je pense aux toits permanents comme en aluminium. Ça aussi, ça réfléchit beaucoup plus et ça absorbe moins de chaleur que
OK, donc l'idée, c'est plus de réfléchir que d'absorber.
Les deux, en fait. Il faut réfléchir la lumière. Et en plus de ça, il faut que le matériau, naturellement, il absorbe pas beaucoup la chaleur.
OK.
C'est comme deux caractéristiques en les deux.
Et il n'y a pas que des avantages, on pourrait dire... au niveau du climat, c'est-à-dire au niveau de ces îlots de chaleur-là, mais il y a toutes sortes d'avantages. Avoir un toit vert, des espaces verts dans une ville, ça dépasse largement les gains de quelques degrés
de température. Oui, ça dépasse largement parce qu'on améliore l'esthétisme, on filtre l'air, comme je l'ai dit tout à l'heure. On permet aussi de réduire le bruit si vous n'avez rien dans une rue ou si vous avez des arbres. Les arbres même permettent de... Si vous prenez la même rue exactement, les automobiles vont moins vite quand il y a deux rangées d'arbres de chaque côté.
Donc, ça améliore la qualité de vie pour les habitants,
oui.
Donc,
oui.
Par le fait même.
Ça crée des habitats pour la faune et la flore, et ça va même augmenter la valeur des propriétés immobilières. À Montréal, on estime que si vous avez une propriété qui est dans une zone vraiment végétalisée, ça peut augmenter de 18 à 20 quand même. Donc, c'est pas une
plantons
augmentation
des
qui
arbres,
est faible.
Citoyens, plantons des arbres.
Oui, tout à fait.
Et comment la gestion de l'eau aussi peut, dans nos grands ensembles urbanistiques, là, comment la gestion de l'eau peut venir jouer dans...
Alors, la gestion de l'eau, c'est un autre aspect qui est vraiment intéressant. C'est comme je disais, Il y a les surfaces minéralisées, asphaltées, bétonnées qui vont déjà absorber beaucoup de chaleur, mais en plus de ça, elles ne laissent pas, l'eau s'infiltrer dans les sols. Et donc cette eau-là, elle va ruisseler énormément, elle ne va pas être retenue du tout, alors que l'eau permet de rafraîchir l'environnement aussi. Donc si on rajoute, là encore, par de la végétation, mais aussi par des bassins, d'ailleurs, les municipalités vont beaucoup financer des jeux d'eau et ce genre de choses, là, parce que ça rafraîchit,
oui.
Ou des brumisateurs, là, comme ça peut arriver. Mais si on finance ça, si on installe ça, des aménagements verts, des jardins pluviaux, ça peut aussi permettre de faire un îlot de fraîcheur urbain. Puis en même temps, ben, ça a d'autres impacts intéressants parce que ça peut diminuer les risques d'inondation, ça diminue le refoulement des égouts, la quantité d'eau qui rentre dans les égouts et qui doit être traitée par la suite parce qu'elle est retenue par ce qu'on a installé en ville. C'est, selon les infrastructures qu'on installe, ça peut retenir quand même jusqu'à 90% des eaux pluviales, là, donc c'est pas rien. Il y a plusieurs villes d'ailleurs qui s'intéressent beaucoup à ça. L'année dernière, ou je pense il y a 2 ans, c'était Granby. Ils ont fait des calculs et ça leur a coûté beaucoup moins cher pour changer leur rue en rajoutant plus de végétation et de structures qui allaient retenir naturellement l'eau que de faire des structures normales
avec des tuyaux et des égouts.
Mais quand même, selon les projets, c'est 15 à 80% d'économies de construction quand même. Donc, ce n'est pas juste 1 ou 2%. Là, c'est des grosses économies. Puis, c'est encore plus beau aussi.
Une question qui vient rapidement en tête, peut-être pour les auditeurs aussi, mais moi qui me chicote, pour évidemment tous ces îlots de chaleur dont tu nous parles, Ariane Beauferré, il y a la question des stationnements en ville. On a besoin d'un certain nombre de stationnements, spécialement dans les centres-villes où il y a tant de gens qui se rendent pour travailler. Comment on gère ça?
Mais comment est-ce qu'on gère? On peut, là aussi, mettre plus de verdissement dans les stationnements, même, plutôt que de faire des immenses surfaces qui vont monter parfois. Il y a des personnes qui travaillent dans des stationnements, dans des péages, là, qui sont dans la journée, à midi, il fait 40, 50 degrés Celsius. Là, c'est vraiment très, très élevé. Donc, on peut, là aussi, faire des structures vertes qui vont permettre de diminuer la température, là. Et on peut aussi décider d'utiliser des matériaux pâles réfléchissants directement sur l'asphalte aussi. Comme pour les toits, en fait. Les toits, à Rosemont-la-Petite-Patrie, par exemple, c'est obligatoire maintenant qu'on ait un toit qui soit blanc, soit un toit vert. Et c'est pas beaucoup plus cher, en fait, qu'ils ont estimé que dans les prix les plus basiques, c'est une augmentation de 3% pour refaire son toit pour qu'il soit réfléchissant. Donc, c'est pas non plus énorme. Après, c'est sûr que si vous avez une grosse surface, ça change de prix. Mais
quand même, si ça permet de couper le nombre de degrés Celsius en deux, comme tu l'évoquais plus tôt dans ta chronique. Est-ce qu'il y a d'autres exemples? Tu viens de parler de Rosemont-Petite-Patrie, mais est-ce qu'il y a d'autres exemples de ce qui se fait au Québec pour lutter contre les îlots de chaleur?
Oui, il y a des villes, par exemple. Là, c'est pas seulement pour les îlots de chaleur, mais qui vont décider de distribuer des arbres, par exemple. Par exemple, la ville de Québec, elle va offrir 2000 arbres chaque année à une date, c'est au mois de mai à peu près, là, des espèces indigènes. À Toronto, ils ont rendu obligatoire les toits végétalisés sur les nouveaux édifices. Donc, c'est au moins 20% du toit qui doit être un toit vert. Il y a beaucoup de choses qui se font. Aussi, il y a un exemple intéressant à Saint-Jean-sur-Richelieu, les terrains vacants. Normalement, dans beaucoup de villes, il faut les faucher régulièrement pour pas que la végétation grandissent trop, que ça devienne chaotique.
Ça fait pas propre, comme disait mon voisin.
C'est ça. Ben là, eux, ils ont dit, mais nous, on veut gagner de la fraîcheur, donc ils ont limité les exigences de fauchage. Donc, les propriétaires sont contents, ils ont moins souvent à aller sur leur terrain pour faucher, mais ça rajoute de la végétation. Il y a même des villes, comme à San Francisco ou à Saskatoon, où on peut, les villageois, les citadins, peuvent aller jardiner sur les terrains vacants, s'ils le souhaitent, là, faire des potagers urbains. Ça rafraîchit aussi l'air.
C'est assez révolutionnaire. Ça.
Oui.
Ariane Beauferré, tu nous parlais du phénomène climatique des îlots de chaleur. Tu nous en as appris pas mal aujourd'hui. Tu fais présentement un doctorat en aménagement du territoire. Ça paraît sur les sources d'eau potable. On peut te lire régulièrement dans la chronique Petite économie dans le magazine Le Verbe et t'entendre à cette émission régulièrement. Merci beaucoup, Ariane.
Merci.
C'était On n'est pas du monde en version 15 minutes avec Antoine Malenfant et son invité.